Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol. C'est le 14e épisode de la deuxième saison de Popol. Et pour commencer cet épisode, je voulais vous parler d'un petit projet qui est en cours, un petit projet qui vise à développer Popol, à savoir faire en sorte que ce podcast ne soit plus uniquement un podcast, mais devienne un support multimédia, un vrai média, un vrai média, où on pourra parler de politique, mais avec un regard féministe. Donc l'ambition, c'est d'atteindre un premier palier avec une campagne de crowdfunding qui a été lancée avant-hier, que vous trouverez sur ma page Twitter, mais que je mettrai également en lien dans la description de cet épisode. C'est une campagne que nous menons sur la plateforme Ulule, où nous cherchons à obtenir donc 10 000 euros pour pouvoir développer une newsletter, ainsi que la création d'une association pour permettre à davantage de féministes de se lancer en politique avec des rencontres, avec du coaching, etc., etc. Il y aura un deuxième palier, mais je vous en parlerai quand on aura passé le premier palier. Donc, si vous souhaitez que Popol vive en dehors de ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir. Merci beaucoup, parenthèse fermée. Donc, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Dalia Martin. Bonjour Dalia.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bah, ça va très bien, et toi?
Très très bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Ben, je suis Dalia, j'ai 22 ans et je suis étudiante. Et voilà, je fais des sciences sociales, plus précisément des sciences politiques, des politiques publiques.
Ok, super. Et tu as une petite actualité à partager avec nous, non?
Oui, je suis ta nouvelle stagiaire.
Donc Dalia va nous aider effectivement sur le développement du média. Trop cool, bah écoute, bienvenue dans la team. Merci beaucoup. Et on a aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui Habiba Bigdad. Bonjour Habiba.
Bonjour Léa, bonjour
tout
le monde.
Comment vas-tu?
Ça va très très bien, franchement.
Alors,
ça va.
C'est la veille de l'Aïd ou c'est l'Aïd aujourd'hui?
Parce qu'on sait jamais. C'est la veille.
Ah ouais, voilà, ouais. On sait là, ouais. C'est bon, là, c'est fixé.
Oui. Ça y est, okay. C'est demain et aujourd'hui c'est manif, quoi. C'est pas manif.
Aujourd'hui c'est manif, effectivement. Bon, très bien. Comment vas-tu?
Eh bien, écoute, ça va très bien. Si on ne parle pas politique, on va dire que ça va bien.
Je précise aussi que tu m'avais dit que si c'était l'Aïd aujourd'hui, tu n'aurais pas pu enregistrer ce podcast. Donc, effectivement, ça veut dire que c'est demain.
Ouais, alors, toujours... j'aurais pu le faire. Je me serais isolée, mais il y aurait
pas... Ça aurait été dommage quand même.
Ouais, oui, voilà. Oui, mais bon, il n'y a pas de souci.
Ok, bah, écoute, très cool. Est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît?
Alors, j'ai 44 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis militante des droits de l'homme. Je milite à la Ligue des droits de l'homme maintenant depuis presque 20 ans. Et aujourd'hui, je préside la Fédération des Hauts-de-Seine de la Ligue des droits de l'homme. Et par ailleurs, j'ai été élue sur ma ville de Nanterre pendant 2 mandats. Voilà.
Eh bien, génial, ravie de te recevoir aussi. Et enfin, troisième invité de ce nouvel épisode de Popol, Maëlle Lecor. Bonjour Maëlle.
Salut Léa, bonjour tout le monde.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, ça va.
Trop cool. Est-ce que tu nous parlerais de toi, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Moi, donc, je suis Maëlle Lecor, j'ai 33 ans, je suis journaliste, je travaille actuellement chez Mademoiselle, où je traite des sujets de société. Donc, c'est assez large, les sujets de société, mais voilà, je parle de politique, je parle de droits des femmes, de droits des minorités, donc ça concerne voilà, beaucoup de thématiques assez larges, assez complètes, et sachant que voilà, on sort d'une période assez particulière, il y a eu une actualité assez chargée de ce côté-là. Voilà.
Ouais, je crois que je vois à peu près ce à quoi tu fais référence. Et d'ailleurs, on va en parler. On va en parler sans trop tarder. Parlons justement de ce deuxième tour de la présidentielle, des résultats. On va parler de tout ça. Hein. Aujourd'hui, c'est le thème unique sur lequel nous allons nous prononcer. Donc, bon, pas de surprise. Pas vraiment de surprise dans le sens où Emmanuel Macron avait quand même préparé ce scénario depuis 5 ans. Nous avait préparé à ce scénario depuis 5 ans. Se retrouver face à Marine Le Pen au second tour, c'était quand même meilleure aubaine pour lui, sa meilleure ennemie. Ce qui lui permet de se faire élire avec un front républicain qui fonctionne encore, même si, il faut le dire, les voix du RN ne cessent d'augmenter et que ce parti, qui promeut la haine de l'autre, raciste, ne cesse de s'implanter durablement dans notre paysage politique. Donc voilà, je voulais qu'on discute un peu de tout ça. Dalia, toi, tu as accueilli ces résultats comment ?
Écoute, je crois avec peu d'émotion, mais un soulagement bien sûr que ce soit Macron qui soit réélu, parce que voilà, on a évité le pire, mais très instinctivement aussi le fait que on a évité le pire, mais on a quand même le deuxième pire, donc il va falloir réagir directement. Donc un état un peu équilibré entre la joie et la non-joie totale de ce qui va arriver.
Et, tu dis qu'il va falloir rééquilibrer rapidement, tu fais référence à quoi ?
Bah, y a les législatives qui arrivent. À titre personnel, moi j'ai assez peu d'espoir en les législatives, mais pour en tout cas prendre le pouvoir. Mais ça reste, enfin, il faut quand même aller voter parce que ça reste quand même le nerf de la guerre, au moins financier, et que ce soit pour que la gauche ait des moyens de continuer à être visible et entendue et qu'elle continue à répandre des nouvelles valeurs dans la société, il faut qu'elle ait ce financement, au même titre que les législatives sont importantes du côté de la droite et de l'extrême droite. Selon l'alliance entre Marine Le Pen et Zemmour, ça va déterminer la visibilité des uns et des autres. Mais voilà, je dis que ça continue parce que j'ai peu d'espoir en les législatives du fait que je pense que le scénario le plus plausible qui puisse arriver est celui d'une majorité macroniste ou du moins d'une coalition entre La République En Marche et une espèce de nébuleuse autour. Et que du coup, il va falloir faire autre chose à côté. Et je pense que ça peut partir que du bas aujourd'hui, et du coup, des mouvements, peut-être moins des partis, mais de la rue, de ce qu'on peut créer, etc. Donc voilà, il va falloir se bouger un peu.
Il va falloir se bouger un peu, effectivement, surtout pour, à mon avis, en tout cas, moi, c'est mon ambition, faire reculer, en fait, l'extrême droite dans le pays, parce que l'urgence est là. Et l'urgence est là depuis des décennies, puisque rien n'a été fait. Rien n'a été fait par les gouvernements successifs pour faire en sorte d'endiguer cette montée xénophobe, raciste dans notre pays. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là. Tu parlais de mobilisation. Abiba, tu nous disais, toi, en introduction, que tu étais militante. Est-ce que tu partages ce constat que Dalia vient de faire ?
Ouais, effectivement, il faut vraiment se remobiliser après ce second tour. Bien sûr, comme Dalia, pour moi, c'est plutôt un soulagement que Marine Le Pen ne soit pas présidente. Plutôt, je prendrais dans ce sens-là que Macron soit président, parce qu'il y avait une crainte réelle qu'elle passe, parce que le front républicain dont tu parlais, Léa, qui pouvait être évident il y a 20 ans, il y a encore 5 ans, force est de constater qu'aujourd'hui, il n'est pas aussi fort que ça et qu'autour de moi, même auprès des personnes qui seraient directement concernées par la politique xénophobe de Marine Le Pen, ils ne se sentaient pas si en danger que ça, voire à entendre des discours de « on n'a jamais essayé, on est protégé, de toute façon, il ne nous arrive à rien », mais un truc incroyable, on voit vraiment la déliquescence, intellectuelle, culturelle, des citoyens français, hein, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur origine sociale, et de se dire, mais en fait, aujourd'hui, on ne vote plus pour Marine Le Pen mécontentement, mais il y a vraiment un socle qui s'est enraciné aujourd'hui, où il y a un réel électorat Front National complètement décomplexé, et décomplexée face à ces dernières années où dans les médias, les idées d'extrême droite se sont répandues tranquillement avec des émissions, excusez-moi, poubelles, où les sujets, c'est l'immigration, l'islam, les étrangers, les migrants, tout ce qui... ça ne devrait pas faire peur, mais c'est monté de manière à ce qu'on puisse avoir peur. Vous avez vu le traitement qu'on a fait pour les réfugiés ukrainiens. C'est aussi des réfugiés, c'est aussi des étrangers, mais de la manière dont on les présente, on n'a pas les mêmes sentiments. Et c'est ce qui s'est passé ces 5 dernières années, si ce n'est encore avant, je suis désolée de le dire, hein, mais même aussi sous le gouvernement Hollande, où on a eu beaucoup d'expulsions aussi de personnes. Il y a eu l'affaire de la jeune Roumaine, je ne me rappelle plus son prénom, qui avait fait débat justement déjà à ce moment-là. Et puis la casse sociale, je pense qu'il y a tous ces événements-là mis bout à bout qui ont fait qu'aujourd'hui les Français et les Françaises se reconnaissent dans les idées d'extrême droite, peuvent facilement, de manière décomplexée, dire qu'ils vont voter Marine Le Pen. Et l'avènement d'Éric Zemmour a permis de polisser l'image de Marine Le Pen. Et je pense que ça aussi, comme on l'a dit, ça a été orchestré, c'est-à-dire de... si on voulait vraiment qu'Éric Zemmour ait moins d'heures d'antenne, parce qu'elle a été condamnée, je veux dire, il y avait plein de raisons pour qu'il n'apparaisse pas, donc ça veut dire que c'était voulu pour pouvoir justement instiller dans la tête des gens, des Français, ces idées et de faire apparaître ça comme une idée majoritaire et que face au second tour, qu'il n'y ait pas... d'hésitation pour voter pour Macron, sauf que je pense qu'il y a eu un gros risque, parce que je pense que là, sincèrement, on a vraiment évité le pire, donc c'est un soulagement, et si on reparlera après des mobilisations, j'étais un peu longue, mais on a 5 ans pour renverser la vapeur.
Ouais, c'est clair, et quand tu parlais tout à l'heure du fait que... il y a une décomplexion, comment dire, je ne sais pas comment on dit, décomplexification, non, je ne sais pas, là, vraiment je ne sais pas. Bref, que le discours d'extrême droite est un discours qui est désormais considéré comme étant presque normal, et il est réel que les gouvernements successifs depuis d'ailleurs qu'on a eu Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2002 n'ont rien fait effectivement pour contrer ça, voire on se refait un peu dessus. Moi je me souviens quand même de Macron qui disait au mois d'août, lorsqu'il y avait les États-Unis qui se sont retirés de l'Afghanistan, qu'il fallait faire face à des flux migratoires, il fallait se protéger, le terme est quand même pas anodin, face aux flux migratoires, enfin des choses qui étaient très très border, sans compter bien sûr Darmanin qui est vraiment celui qui a vraiment tapissé la route pour qu'elle soit encore plus confortable à Marine Le Pen. Enfin bon, bref, c'est vraiment super inquiétant. Maëlle, toi, tu en tant que journaliste, Habiba parlait évidemment du fait que les médias ont une certaine responsabilité dans cette montée de l'extrême droite. J'imagine que toi, non. En tout cas, c'est vraisemblablement pas ta crèmerie, disons. Comment tu vois les choses?
C'est intéressant parce que c'est justement une question que j'ai posée à d'autres journalistes engagés sur ce sujet, sur comment on fait pour justement, oui, travailler cette question de la perte des valeurs politiques, culturelles, justement, qui permet aujourd'hui, comme le disait super bien Habiba, qui fait que des personnes qui pourraient elles-mêmes être frappées de plein fouet par une politique d'extrême droite se disent essayons, on n'a jamais fait, essayons. Cette banalisation de l'extrême droite permet ça à des personnes qui pourraient être vraiment extrêmement en danger, de se dire, et ça fait partie d'un ras-le-bol aussi, hein, bien sûr, c'est un ras-le-bol de voir que à droite comme à gauche, rien n'a vraiment changé. Donc il y a l'idée de ce vote un peu anti-système, que Macron, qui ne se réclamait ni de gauche ni de droite, bon, on ne va pas revenir sur ce que ça signifie vraiment, hein, cette formule, on sait très bien que ni de gauche ni de droite, ça veut dire de droite, ça n'a pas amené grand-chose de bon non plus, et que du coup on se retrouve face à un vote aussi de ras-le-bol à l'encontre du président sortant. Donc voilà, il y a cette envie de se dire essayons, on n'a jamais fait, essayons. Et ça, voilà, c'est... c'est un aboutissement, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, d'une succession de prises de position. Tu parlais d'Emmanuel Macron qui parle des flux migratoires au moment de la crise en Afghanistan, de Darmanin évidemment. Je ne sais pas, j'ai l'exemple par exemple de Sarah El Haïry qui dit que pour elle, donc secrétaire d'État à la jeunesse, à l'engagement, qui dit que pour elle, le vrai danger, c'est pas l'extrême droite, mais c'est, je ne sais plus, c'était les woke ou les islamo-gauchistes, je ne sais plus exactement la formulation, mais voilà, c'est quand même, on a toute une banalisation, une mise à niveau aussi de la même chose entre les idées racistes et les mobilisations antiracistes. Et ça, c'est vraiment une perte de valeur qu'on a laissé faire. Alors après, oui, voilà, du côté des médias, comment on fait, comment on redonne justement un sens des valeurs. Moi, à mon petit niveau, effectivement, comme tu disais Léa, j'essaie d'y travailler, j'essaie de débunker des choses. Par exemple, moi, quand j'ai ce sondage de Elle là, qui est paru il y a quelques semaines, je crois que c'était juste avant le second tour, ce sondage du magazine Elle, justement, qui voulait mesurer la perception féministe de l'un ou de l'autre candidat, donc entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et que le résultat, c'est que 49% des électrices estiment que Marine Le Pen est une candidate féministe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Voilà, moi, j'ai cette donnée-là. Mon travail de journaliste, ça va être par exemple de dire, en fait, vous avez l'impression que, vous, hein, général, hein, bien sûr, hein, mais voilà, des électrices estiment que c'est une femme sur deux quand même, c'est grave hein, quand même cette perception-là. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi la politique en direction des femmes de Marine Le Pen, elle est fondée quasi essentiellement sur une vision, une politique nataliste, on va dire, justement, de travailler sur les aides sociales. Mais en fait, sinon, il n'y a rien sur l'IVG, il n'y a absolument rien. Au contraire, parce qu'on les connaît aussi, je veux dire, on les connaît, cette position. Visiblement, les choses s'oublient aussi. Donc, il s'agit tout le temps de faire des rappels, d'être... moi, de mon point de vue de journaliste et j'espère de beaucoup de confrères et consoeurs, il faut qu'on soit intransigeant là-dessus, il faut qu'on dise les mots aussi, en fait. Et je pense que Léa, toi, tu le fais très bien en disant, en fait, c'est une politique fasciste, c'est une politique raciste, c'est une politique xénophobe. Et ben en fait, il faut qu'on continue à utiliser ces mots-là, en fait, parce qu'à force de les avoir contournés, à force de voir sur un plateau, sur CNews, la question Marine Le Pen est-elle d'extrême droite, elle a réussi ça, en fait, elle a réussi quand même ce coup à se faire passer pour pas d'extrême droite. À quel moment ouais, ça c'est terrible, ouais, c'est terrible qu'on en soit arrivé là, en fait. C'était, c'était le niveau basique 101 de Front National / Rassemblement National. Enfin, je veux dire, l'extrême droite, voilà, ça bouge pas. En fait, si, ça a réussi à bouger, c'est incroyable.
Okay. Non, c'est très inquiétant. Dalia, je te voyais réagir, tu veux prendre la parole?
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous aviez dit tous les deux sur les médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un journalisme, comme tu disais, un peu poubelle, qui est de plus en plus mauvais et qui effectivement a permis gracieusement la montée de l'extrême droite et la radicalisation et l'extrême droitisation de toute une partie des Français. Mais je voulais aussi un peu recontextualiser parce que j'ai l'impression qu'on met beaucoup la faute aussi sur les journalistes. Et je trouve que si on prend le problème dans l'autre sens, les journalistes, en fait, que ce soit du journalisme indépendant ou quoi, subissent ça. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, avec l'actualité de Julian Assange, où c'est un vrai, un vrai panneau d'avertissement envers les journalistes pour leur dire attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites. Et pour moi, c'est aussi la responsabilité de tous les politiques qu'on a choisis depuis 25 ans qui ont des mesures néolibérales qui sont profondément injustes socialement et qui ont créé une espèce de fracture sociale dont on parle tout le temps et qui aussi ont bénéficié à l'extrême droite. Et c'est pas que de la faute des journalistes et du mauvais journalisme, c'est surtout la faute des politiques néolibérales qui, au final, engendrent cette fracture sociale qui, elle, va bénéficier à l'extrême droite. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Ouais, c'est vrai que c'est important aussi de rappeler ça, effectivement, c'est fondamental. Abiba, je te laisse réagir.
Oui, sur cette question-là, justement, des médias, et pour faire le lien avec les mobilisations, justement, la Ligue des droits de l'homme, elle est engagée dans un collectif peut-être que tu connais déjà, Léa, qui s'appelle Stop Bolloré, et dont l'objectif, c'est justement un peu de faire prendre conscience aux gens qu'on a un danger. On a la haine aujourd'hui qui est médiatisée et qui passe crème, si je peux me permettre cette expression, et donc personne ne s'offusque. Et aujourd'hui, on est obligé de se mobiliser là-dessus pour faire connaître le fait qu'il y a une mainmise sur l'ensemble des canaux médiatiques, que ce soit les éditeurs de presse, que ce soit les médias télé, les éditeurs de livres d'un groupe, qui fait qu'aujourd'hui, on croit qu'on est en démocratie et que finalement, il y a d'autres pouvoirs, un pouvoir médiatique, on va dire, malfaisant, qui n'a pas un objectif d'équilibre. Après, forcément, chaque journal, chaque éditeur a sa ligne éditoriale, sauf que là, on a un regroupement majoritaire qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de diversité, entre moins de diversité de grande écoute vers les Français. Et ça m'a fait penser aussi à une étude qui a été faite aux États-Unis. Ça, j'ai écouté, c'était le journaliste, je ne sais plus comment il s'appelle, Cohen, dans une émission à la télé, qui rappelait cette étude-là, en fait, où ils ont demandé à des spectateurs, des téléspectateurs de Fox News, moyennant rémunération, de plus regarder Fox News et de regarder CNN, qui est un peu les deux grandes tendances américaines. Et ils ont remarqué qu'en fait, au bout de, je ne sais plus, c'était un mois, ils restaient toujours très conservateurs et tout, mais qu'ils répondaient, ils étaient un peu plus équilibrés sur des sujets où ils croyaient moins à des fake news, comme quoi si Biden passait, les policiers vont se faire tuer ou des trucs comme ça. Bref, et donc on voyait comme quoi, en fait, il suffit que les téléspectateurs soient branchés sur un autre média qui a un autre angle de vue pour réfléchir autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc c'est malheureux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas plus loin que ce qu'ils écoutent à la télé. Et je pense qu'il y a aussi les effets des réseaux sociaux où finalement, on a l'impression d'avoir le monde devant soi et qu'en fait, on a uniquement les gens qui pensent comme nous autour de nous en pensant que c'est la majorité. Et je pense que ça aussi, c'est un effet biaisé des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution à part justement un pouvoir politique qui soit plus fort afin d'éviter la mainmise de certains groupes sur l'ensemble des médias. Donc aujourd'hui, tant que ça c'est pas fait, on continuera à avoir des émissions comme on a à la télévision et aucune alternative possible. Alors voilà, tu sais bien, Léa, tu lances ton média, ta newsletter, et c'est courageux et il en faut beaucoup des comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est une sorte de résistance aussi, ce que tu fais et d'autres médias pour avoir un autre point de vue parce que tu as dû finir par voir que tout était monochrome et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place et qu'il faut créer. On est obligé de créer, il n'y a plus d'endroit où on peut se dire « bon, je vais aller plutôt dans ce média-là parce que je retrouve mes idées, l'un va pas, ne vaut plus l'autre et du coup se lancer dans la création. Et ça, c'est aussi, tu participes d'une certaine manière aussi justement à la pluralité des débats. Et donc ça, c'est par exemple une mobilisation. Alors ça, c'est pas mon domaine, hein, les médias, c'est pas. Mais ça, c'est. Mais la Ligue des droits de l'homme elle est engagée là-dedans. Et puis après, il y a les mobilisations populaires, mais on en reparlera aussi après.
Et avant ça, il y a quand même le coup d'après, les législatives. Et ça, j'aurais bien aimé quand même qu'on en discute. Là où nous sommes en train de nous parler, il n'y a toujours pas d'accord à gauche. Voilà, j'ai l'impression que c'est une running gag. Bref, c'est même pas drôle. C'est même plus drôle, en fait. Il faut arrêter, là. Il y a une responsabilité quand même assez importante. Une attente très forte aussi du côté du bloc des électrices électeurs de gauche. Moi, j'ai quand même du mal à imaginer que ça va réussir à aboutir, pour être honnête, étant donné le fiasco que ça a été... pendant la présidentielle, j'ai du mal à y croire. Maëlle, toi, tu es plus optimiste que moi ?
je sais pas si je suis plus ou moins optimiste. J'ai envie d'y croire. Je veux y croire. J'ai pas non plus envie d'être déçue. C'est ça. Et il y a aussi ce côté too little, too late, trop peu, trop tard, en fait. C'est que si ça aboutit, dans quelle forme, et que... que maintenant, en fait, on se réveille que maintenant. Enfin, voilà, c'est un peu une lassitude vis-à-vis de ce jeu-là qui, en plus, je trouve, je le suis en tant que journaliste aussi, bah, que femme qui vote à gauche, qui a des convictions de gauche. Voilà, donc évidemment, c'est des choses que je suis de près, par intérêt professionnel notamment, mais pas que. Et je me dis aussi, j'essaie de me mettre à la place aussi de gens qui ont effectivement des convictions de gauche, mais voilà, qui n'ont pas cette capacité ou cette envie de suivre ce genre de jeu politique de près. Et j'utilise le mot jeu à dessein parce que je pense que les gens aussi sont lassés de voir ce jeu d'alliance, de non-alliance, et que ça peut... Il y a un risque aussi que ça dégoûte les gens de voir ce genre de choses ne pas aboutir ou aboutir de manière un peu bancale.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et déjà, on sait que les législatives, on se risque de moins mobiliser qu'une présidentielle parce que bah, c'est médiatiquement, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière que les législatives. Pour des personnes qui n'y connaissent rien en politique, et bah, ça a l'air plus compliqué. On a moins de connaissances sur ce que ça veut dire, sur ce que ça signifie, sur le fonctionnement législatif de notre pays. Donc, même ça, rien que ça, la pédagogie, elle n'est pas forcément faite par les médias généralistes. Donc, je me dis, si en plus, on rajoute un jeu d'alliance, de refonte, du paysage politique à gauche, etc., voilà, tel parti qui va en draguer un autre et puis l'autre il veut pas. Alors, on pourrait essayer de tourner ça en feuilleton, hein. Peut-être que ce serait un peu plus accessible, peut-être que ce serait un peu plus vendeur, j'en sais rien, face aux Marseillais par exemple, je sais pas. On pourrait le vendre comme ça, hein. mais voilà, je pense aussi que les gens, il y a une forme peut-être d'écœurement, oui, un peu fort, hein, c'est un peu dur, mais voilà, je pense aussi que les gens, ça leur parle moins, en fait, les bisbilles, les querelles politiques internes.
C'est clair, et il faut quand même rappeler qu'en 2017, l'abstention législative, c'était 56%.
Ouais, c'est énorme.
Donc,
c'est énorme.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est ça aussi, qu'est-ce qu'on fait aussi, parce que ça, c'est un pouvoir quand même... l'Assemblée nationale. Et
bah,
ça,
bien sûr. Et tu as raison, quand tu parles conscience. De pédagogie, de complexité aussi du système, déjà que la présidentielle, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, quand il s'agit des législatives, c'est encore pire. Et c'est clair qu'il faut impérativement faire en sorte, en tout cas moi je me bats pour ça au quotidien, de vulgariser la politique dans tout bon sens du terme, pour donner les clés de compréhension, parce que c'est quand même hallucinant que tu sois obligé de te taper 50 droits pour comprendre à peu près comment fonctionne notre constitution et nos institutions. Enfin, c'est juste scandaleux. Donc, et ça, bien sûr, il y a une responsabilité. Enfin, moi, j'ai l'impression souvent que ce que je fais, c'est d'utilité publique. Il y a une responsabilité de la part des pouvoirs publics de ne pas se saisir de cette question, de faire en sorte que le fonctionnement de nos institutions soit compris, en fait. Ouais. Il y a quand même, enfin, quand ils font des séminaires pour les nouveaux députés parce qu'ils ne savent même pas comment voter un amendement, enfin, on en est là, quoi. Il y a des trucs ouais. comme ça, c'est hallucinant, et on ne peut même pas leur en vouloir parce qu'effectivement, on n'est pas préparé à être citoyenne et citoyen actif dans notre pays, en fait. C'est ça le gros problème. Dahlia, toi, tu y crois pour législatif? Tu en parlais vite fait tout à l'heure. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qu'on peut, un horizon vraiment aujourd'hui, 1er mai, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, enfin, est-ce qu'il ne faut pas que ce soit... Est-ce qu'il n'est pas trop tard, en fait, même pour faire campagne?
Non, honnêtement, j'y crois peu, même si je pense que ne pas y croire ne signifie pas ne pas aller voter et essayer de mobiliser les gens autour de soi pour y aller quand même. Mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que la politique est un peu imbitable pour toute personne novice ou profane ou qui n'a pas le temps de s'y intéresser, et d'autant plus législative. Maintenant, moi, je trouve que... Enfin, je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais je trouve que la communication, par exemple, de la France insoumise en ce moment sur « Élisez-moi Premier ministre », etc., même si ça paraît d'une certaine manière, je ne sais pas, un peu démago ou quoi, parce qu'effectivement, juridiquement, ce n'est pas le cas. Moi, je trouve ça pas mal et je trouve que, du coup, ça fait naître un espoir auprès de ceux qui, effectivement, ne savent pas ce que sont vraiment les législatives, comment on les vote, qui on vote, etc. Un truc très simplifié et qui, du coup, redonne un peu d'espoir pour cette espèce de troisième tour. Après, malheureusement, l'extrême droite a aussi repris cette idée de troisième tour récemment. Mais non, moi, j'y crois pas trop, pour revenir à la question de base. Je pense que... Enfin, bon, là, on le voit, c'est très compliqué, l'alliance, surtout avec le PS. Et enfin, outre la question des petites manigances, des petites alliances, etc., il y a des questions, en réalité, qui sont ultra complexes. Et si, je ne sais pas, sur des questions purement techniques comme le nucléaire, je considère qu'on peut se mettre d'accord ou remettre la question à plus tard, comme ce qui avait été fait en 2017, par exemple, avec le PCF et la France Insoumise via un référendum ou quoi. Il y a des questions qui, je ne sais pas, par exemple les retraites avec le PS, qui pour moi sont presque indépassables et qui sont un blocage énorme parce qu'on parle d'union de la gauche et par exemple la retraite à 62 ans est profondément une mesure qui n'est pas de gauche. Et de fait, ça crée des obstacles qui pour moi ouais, sont insurmontables et je comprends que peut-être on n'aille pas vers une majorité, qu'on n'aille pas vers une union. Mais si c'est pour respecter aussi les valeurs... Enfin, je trouve que ça ne sert à rien d'aller au quoi qu'il en coûte pour une union si derrière, on évacue la moitié des valeurs en mode de la gauche radicale qui a réussi à porter, par exemple, Mélenchon jusqu'à quasiment les portes du second tour, quoi.
Tout à fait. Je suis bien d'accord. Habiba, toi, t'es... Mon petit doigt m'a dit que tu étais bien au courant de ces questions. Est-ce que les négociations avancent ou pas?
Alors, avant de dire quoi que ce soit, je veux juste dire que, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai été élue pendant deux mandats, donc j'ai goûté aussi à l'exercice du pouvoir, on va dire, même ne serait-ce que local. Donc, en moins local, c'est beaucoup plus sympa dans une ville de gauche. En plus, j'avais la question de la santé comme délégation. Donc, voilà, on ne peut pas dire que c'était le sujet le moins sympa, donc vraiment c'est une belle expérience en fait de pouvoir, voilà, de décision, et c'est aussi l'engagement politique associatif qui m'a amené là, parce que du coup quand on est acteur associatif, on se rend bien compte que in fine la décision elle est politique, que ce soit dans la ville, dans le département, dans la région, si vous voulez avoir des subventions pour faire votre action, voilà, c'est un peu finalement dépendant des politiques. Et puis bien au plus haut après à l'Assemblée nationale, et c'est aussi comme ça parce que moi j'étais aussi candidate il y a 5 ans aussi déjà aux élections législatives, un peu toujours dans cette ambition en fait, voilà, d'engagement, de se dire bon je fais des choses au niveau local, de ce que je peux faire dans mon environnement, et de voir comment essayer de rentrer aussi dans l'arène et que ce soit que ma voix, que ce que je défende puisse être aussi profitable à l'ensemble des Français, des Françaises et des Français. Donc voilà, donc moi j'étais au Parti Socialiste, mon parcours politique qui m'a amenée au Parti Socialiste, que j'ai quitté depuis. Pour ce mandat-là, je me suis dit, je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais retourner aux élections législatives. Après, dans une autre optique, parce qu'on n'était pas dans la même configuration il y a 5 ans, aujourd'hui, effectivement, il y a cette idée du troisième tour. Alors, moi, je vais dire de manière non partisane, je pense que c'est plutôt... J'ai l'impression que je suis plutôt optimiste dans la mobilisation parce qu'aujourd'hui, on parle plus des législatives que ce qu'on faisait il y a d'autres années. Donc, je pense que les gens ont compris de l'utilité d'avoir aussi une majorité à l'Assemblée nationale qui découle du coup d'avoir un gouvernement de cette couleur politique, même si... Techniquement, ça va être très compliqué, mais au moins, ça permet, ça fait de la pédagogie quand même. Mais je pense que on peut saluer au moins ça de la part de Jean-Luc Mélenchon, d'apporter un petit peu de pédagogie, de se dire c'est pas fini, on peut encore essayer de renverser la vapeur, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'Assemblée nationale, et donc du coup, de pouvoir mener des politiques de gauche À moins qu'on ait une majorité, c'est-à-dire la moitié de 577, à peu près 290 députés. Et sur le papier, c'est difficile. La seule façon de pouvoir y arriver, c'est qu'il y ait un candidat de gauche dans chaque circonscription et soutenu par tout le monde. Il n'y a pas d'autres candidats. Il n'y a qu'un seul candidat de gauche. Et là, en fonction des territoires, il est possible qu'il arrive au second tour et qu'il arrive soit premier, soit qu'il arrive au second tour et qu'il batte l'autre candidat qui est aussi au second tour. Donc ça, c'est possible, mais ça ne marcherait que si on a un seul candidat. Donc, on est tous un petit peu des personnes engagées un peu partout en France, quelles que soient d'ailleurs ses origines, j'ai envie de dire, politiques, mais on est un peu suspendu aussi aux accords nationaux. Donc, moi, j'ai présenté ma candidature à l'ensemble des partis, voilà, avec ce que je défends, parce qu'il correspond, grosso modo, on va dire, à une politique de gauche. J'ai le soutien de la Fédération de la gauche républicaine qui vient de se créer là, il y a le week-end dernier, quoi, avant-hier, qui regroupe des politiques de gauche républicaine, genre gauche républicaine et socialiste, les radicaux de gauche, la nouvelle gauche socialiste, MRC et je vais en oublier, l'engagement, qui est le parti d'Arnaud Montebourg. Et mon idée, c'est d'avoir les autres partis. Donc, on est un peu suspendu, mais tout le monde est suspendu aux accords, parce que l'idée, c'est qu'on ait un candidat et que je pense et j'espère que tout le monde jouera le jeu de la candidature unique. Et au niveau des négociations, j'ai pas plus de nouvelles que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui pas d'accord. Il y aurait peut-être un accord qui arriverait avec les Verts. Il pourrait se conclure, même si on a vu, il y a eu des hauts et des bas là, toute la semaine. Le Parti communiste aussi, peut-être. Le PS, il était parti pour, et finalement, c'est suspendu. Mais je pense que ça marchera que si tout le monde est d'accord. Et en plus, on parlait tout à l'heure des personnalités aussi locales. Il faut aussi mettre en avant les personnes qui sont mobilisées au quotidien. Quand tu disais tout à l'heure que des fois, on se retrouvait avec des personnes qui sont élues, ils ne savent même pas c'est quoi le rôle d'un député. Bah pour souvent, c'est des gens, ils n'ont jamais eu de rôle ni associatif, ni syndical, ni quoi que ce soit. Où je reviens un peu à cette pauvreté intellectuelle et culturelle qu'on a, qui touche tout le monde finalement. Et on se retrouve avec des députés qui dépensent 3000 euros de lingerie. Pour ne pas citer.
Ouais,
c'est un truc hallucinant, oui. Mais bon. C'est,
moi, je me disais, voilà. Je me faisais la réflexion là récemment et je me disais, on peut avoir une surprise parce que, effectivement, donc, le calendrier des élections législatives est calqué sur celui de la présidentielle depuis un certain nombre d'années, désormais, de sorte à ce qu'il y ait un certain enthousiasme qui se crée pour le président élu et la marque du parti qu'il a porté à la tête de l'État. Là, on est dans une configuration quand même assez particulière. On est presque dans ce que connaissent les États-Unis quand il s'agit de voter pour les midterms. J'ai l'impression que Macron est vraiment en train de vivre un peu son midterm elections. Et je demande à voir, est-ce que toi, Maëlle, tu penses que ça peut avoir un impact et des conséquences sur les élections à venir le 12 et 19 juin ?
Ouais, c'est intéressant ce truc des midterms, je l'avais pas du tout envisagé comme ça, mais c'est un parallèle assez intéressant. Pour ce qui est des conséquences, très très honnêtement, comme ça j'aurais vraiment du mal à évaluer et à me prononcer là-dessus. Personnellement, hein, je suis encore en train d'encaisser, d'encaisser la victoire, mais c'est vrai d'encaisser toute la campagne en fait qu'on a appris. Et je trouve que là, pour l'instant, ce qui se dessine côté LREM, j'ai vraiment du mal à l'évaluer pour le moment, pour être tout à fait honnête avec toi.
Affaire à suivre. Donc, Dahlia, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux conclure sur ce thème, même si on aurait un milliard encore de choses à dire?
Pour le mot de la fin, je ne sais pas trop. Je dirais que j'ai peu d'espoir en la gauche, mais je pense qu'on peut avoir l'espoir que les autres se vautrent plus que la gauche. Et que Marine Le Pen ne rallie pas Zemmour par stratégie que je pense bonne pour elle sur du moyen terme, et que Emmanuel Macron n'arrive pas à rallier non plus, je ne sais pas, des partis comme Horizon d'Edouard Philippe, avec qui il est en pas très bon terme, et que voilà, ça pourrait bénéficier beaucoup plus d'espoir qui proviennent intrinsèquement de l'Union de la gauche.
C'est pas faux. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur ces questions qui nous occupent beaucoup en ce moment, effectivement. On va passer à vos actualités, à ce dont vous vouliez nous parler. On va commencer avec toi, Abiba. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît?
Alors, c'était un peu en continuité avec peut-être l'introduction de l'émission, justement sur la question des mobilisations. Donc aujourd'hui, le 1er mai, je reviens tout juste de la commémoration en hommage de Brahim Bouram, qui fut assassiné il y a maintenant 27 ans, un jeune Marocain de 29 ans, assassiné en étant jeté dans la Seine par des militants du Front National qui sortaient d'un défilé du FN. Et pour dire aussi, aujourd'hui, il y a la question de la mémoire, de se rappeler aussi ce qu'est le Front National, parce que je pense que on a quand même trop vite balayé l'extrême droite. Effectivement, Macron, avec ses politiques antisociales et liberticides, la loi contre le séparatisme, ce danger dans lequel il nous a mis aujourd'hui, est tel qu'aujourd'hui le Front National est encore plus dangereux. C'est-à-dire que, quand je le disais tout à l'heure, il y a un soulagement. Le Pen, elle serait arrivée au pouvoir, c'était un peu figure in the nose, parce qu'il y aurait beaucoup de choses qui auraient été mises en place par Macron, qui auraient permis justement, en termes de contrôle policier, sécuritaire, beaucoup plus facile que ce l'était il y a déjà 5 ou 10 ans. Et aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de retomber dans un état totalitaire en France, quoi. C'est malheureux, le pays des droits de l'homme, le pays des lumières. Donc je pense que la question de l'antiracisme couvre beaucoup de choses au-delà, beaucoup plus de choses que le racisme en tant que tel, mais sur toutes les questions sociales et qui font qu'aujourd'hui il y a des œillères qui sont mises et qu'on ne se renseigne pas assez, on ne regarde pas assez les conditions sociales dans lesquelles vivent les Français aujourd'hui.
Absolument, merci beaucoup Abiba d'avoir partagé tes réflexions et ces éléments avec nous. Dalia, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît?
Alors, je vais m'éloigner un peu du sujet, mais je voulais parler d'un livre, Le cœur des femmes, de Martin Winkler. Je ne sais pas si vous avez lu. C'est un roman qui n'est pas tout récent, il doit avoir, je sais pas, 15 ans à peu près, mais je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je trouve qu'il est vachement d'actualité. Et je considère que ça devrait un peu être un espèce de manuel scolaire, enfin pour les adolescents en tout cas, tellement il est, je trouve, d'utilité publique, comme tu disais Léa tout à l'heure. Et c'est l'histoire d'une jeune interne de médecine qui veut faire de la chirurgie gynécologique et qui du coup va être envoyée dans un service qui fait de la médecine des femmes, donc IVG, violence conjugale, maternité des adolescentes, etc. Et déjà, je vous conseille ce livre parce qu'il traite tout un tas de thématiques sur, je sais pas, la manière dont la médecine aujourd'hui traite l'intersexualité. Sur comment on écoute et on valorise le discours des femmes sur leur propre corps, sur comment on pratique la gynéco, etc. Et là où le livre se démarque vraiment pour moi, c'est sur la question du consentement relatif à la figure d'autorité qu'est le médecin, donc ici le ou la gynéco. Et moi, par exemple, je suis en vie où aller voir un gynéco, c'est un peu un passage obligé, et aller voir des médecins et des spécialistes, c'est aussi de plus en plus fréquent, et de le faire seul aussi. Et je trouve qu'à 20 ans, la plupart des jeunes, enfin mes potes en tout cas, n'ont pas forcément un gros parcours médical. Et du coup, on se retrouve facilement, angoissé ou un peu dominé en tout cas par cette figure un peu suprême qu'est le médecin. Et donc, on accepte, des pratiques qui n'ont pas lieu d'être parce que juste, on n'est pas renseigné en fait et que du coup, on s'en remet un peu entièrement à ça. Et ça devient d'autant plus problématique quand il s'agit d'un gynéco, par exemple, ou d'un médecin qui va toucher plus globalement aux parties génitales, parce que du coup, la frontière entre ce qu'il a le droit de faire et pas faire, ce qu'il a le droit de toucher et pas toucher, et comment le faire, enfin, du coup, elle devient hyper floue. Et donc, le caractère un peu, je sais pas, problématique d'une pratique anormale ou potentiellement anormale, elle est beaucoup plus subtile et du coup, beaucoup plus problématique. Et du coup, ce livre, pour moi, c'est vraiment un point de départ pour comment dire, reconsidérer la manière dont le médecin, et du coup là particulièrement le gynéco, est censé se comporter avec du coup ici ses patientes. Et du coup, de manière plus large, la symétrie d'information qui est en soi évidente entre le médecin et le patient, eh ben, elle oblige en final le médecin, pour moi en tout cas, à dire ce qu'il fait sur notre corps, ce qu'il touche, pourquoi, ce qu'il injecte, etc. Parce que dans tous les cas, même si c'est normal ce qu'il fait, on doit être prévenu, sinon on n'intériorise pas, par exemple, je sais pas, un toucher rectal comme une nécessité médicale, mais aussi comme juste l'intrusion d'un inconnu dans notre corps. Et du coup, dans ce livre, on apprend plein de choses, mais je vous conseille vraiment de le lire sur des pratiques qui sont hyper construites et où on pourrait faire autrement. Et ça nous fait poser vraiment un nouveau regard sur certaines pratiques médicales, et je pense que c'est vraiment d'utilité publique et on devrait le faire lire à toutes les ados pour, avant d'aller chez le médecin, notamment chez des médecins genre le gynéco.
Voilà. Super, merci beaucoup Dalia. Tu peux nous redonner la ref, s'il te plaît ?
C'est Le cœur des femmes. Ça s'écrit le cœur comme une chorale, enfin comme tout plein de femmes. Voilà, de Martin Winkler.
Super, merci beaucoup. Merci. Et toi Maëlle, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Alors, je fais une micro-parenthèse parce que je rejoins Dalia à 1000% sur cette reco. J'ai effectivement lu le livre aussi et... Je pense qu'il faudrait non seulement le faire lire à beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, mais le faire lire aux médecins aussi, aux futurs médecins, aux étudiants en médecine. Je pense que ça aiderait beaucoup à faire repenser la profession, en tout cas, et ce qu'elle se permet dans certains cas, et justement la toute-puissance du médecin, et remettrait en cause juste, voilà, cette idée de toute-puissance médicale. Je ferme la parenthèse, mais en tout cas, effectivement, je le recommande vivement et je crois qu'il y a eu une adaptation en BD assez récente de ce roman-là. Alors, de mon côté, c'est une petite reco aussi. C'est une série, parce qu'on parlait de pédagogie, justement, sur les institutions politiques et ça tombe assez à pic avec ce dont je voulais parler pour cette petite carte blanche. Je vous recommande vivement une série qui s'appelle Parlement, qui est une série de France Télé Slash, dont la première saison est sortie, je pense très précisément parce que c'est sorti pendant le premier confinement, donc en avril 2020. Donc elle fait partie de ces films ou séries qui m'ont aidé à m'accrocher un petit peu pendant cette période un peu difficile. C'est une série comique, vraiment très très bien fichue, sur un tout jeune assistant parlementaire qui débarque au Parlement européen et qui va assister un parlementaire français qui s'appelle Michel et qui est nul. Et donc Samy, donc c'est le héros, va devoir se dépatouiller dans ce labyrinthe institutionnel kafkaïen qu'est le Parlement européen, et il va rencontrer une série de personnages assez truculents, et c'est vraiment la vague du comedy office, comme c'est un genre de série comique, voilà, c'est vraiment la série comique au bureau, ou en tout cas dans le lieu de travail. Et c'est extrêmement drôle, et j'en parle aujourd'hui parce que du coup, cette première saison, qui est toujours sur France TV Slash, donc qui est dispo en ligne, c'est 10 épisodes de 20 minutes, hein, ça se regarde de manière très très rapide, ça se binge très facilement. Et la deuxième saison arrive dans une petite semaine, je crois le 8 ou le 9 mai. Donc voilà, moi j'ai très très hâte de retrouver les persos de cette série, ça m'avait énormément fait rire. Et aussi, je trouve qu'elle fait du bien dans le sens où non seulement il y a des gags excellents, enfin voilà, c'est très très bien écrit, très très bien joué, mais aussi elle a une valeur pédagogique très chouette sur comment fonctionnent ces institutions qui d'extérieur ont l'air si opaques, si compliquées, on comprend même pas trop à quoi ça sert parfois, et voilà, on suit ce jeune assistant parlementaire qui débarque et qui se retrouve avec les bras à devoir défendre un amendement sur la pêche et ce qu'on appelle le finning, donc qui est la pêche aux ailerons de requin. Donc voilà, il est censé défendre un amendement justement pour s'opposer à cette pêche aux requins, je crois, dans l'air du Nord ou je ne sais où. Et donc voilà, et c'est vraiment cette complexité où justement on se retrouve à être dans un dédale administratif complètement, complètement dingue dans ce Parlement européen qui pour nous, voilà, n'est pas forcément très accessible. Et je trouve par la comédie, justement, on arrive à capter pas mal de choses. Et voilà, non seulement c'est extrêmement agréable à regarder, mais en plus on apprend des choses. Donc voilà. Moi, j'ai très hâte de cette deuxième saison et je vous recommande la première.
Merci.
C'est France TV Slash, donc c'est le service public et ça, on aime. Voilà. Et on aime nos téléphones, nos séries françaises aussi, quand elles sont bien.
Super, bah merci beaucoup Maëlle pour cette reco, effectivement, parce que le Parlement européen de l'extérieur, tu as l'impression que c'est une espèce d'usine à gaz, de l'intérieur aussi, je crois. Mais je pense que c'est intéressant de comprendre aussi ce qu'ils foutent et voir comment ça fonctionne. Donc, génial. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois d'avoir participé à ce nouvel épisode de Popol. C'était un bonheur de vous retrouver. Donner la parole à Clotilde Lecause pour sa chronique internationale, je rappelle que Popol a besoin de vous. Si vous souhaitez que Popol se développe, devienne une newsletter, devienne aussi une association pour faire des rencontres entre meufs trop chambées qui ont envie de s'engager en politique. Donc voilà, et puis bah, je vous embrasse et je vous dis à très vite.
Salut Léa, bonjour tout le monde. Bon, je vais changer un peu de ton pour cette cinquième chronique de la saison. On est un peu morose, j'avais envie d'adopter un peu de cynisme, un peu d'ironie, et même de citer le maître du monde, vous allez voir. Le résultat de notre élection a intéressé à l'étranger, et vous avez remarqué comme les mots de félicitations des chefs d'État annoncent la couleur de nos futures relations ? Bah ouais, on a les déçus, les pas convaincus. Hein. Vladimir Poutine, par exemple, en Russie, Macron est présenté comme le partisan de l'armement de l'Ukraine et des sanctions anti-russes. C'était clairement pas le candidat préféré. Résultat, il le félicite sobrement. Il lui souhaite une bonne santé. C'est la troisième fois. Il l'avait fait quand Emmanuel Macron avait le Covid, logique, et également en 2017 lors de sa première victoire. Poutine a d'ailleurs repris le communiqué de 2017 à peu de choses près. Hein. Donc comprenez, bon, comme je dois le faire, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Ça ressemble un peu à ça. En Chine, l'élection française ne représentait en rien un enjeu pour le pays, on imagine bien. Donc le président chinois a adressé des félicitations mesurées. Et comme le dit très bien Frédéric Lemaître du Monde, voilà, Pékin souhaite une France assez forte pour ne pas suivre aveuglément Washington, mais assez faible pour ne pas contrarier ses propres ambitions. Et puis on a les historiques, ceux avec lesquels il va falloir composer. Aux États-Unis, par exemple, Biden a fait savoir qu'il était content du résultat de l'élection et qu'il souhaite continuer à échanger sur toutes les priorités, et particulièrement l'Ukraine. Alors là, il faut comprendre que les États-Unis sont le plus gros fournisseur d'aide en Ukraine. Ils ont livré 3/4 de l'aide militaire au pays. Et ça va donc être la plus grosse piste de travail entre les États-Unis et la France ces prochains mois. En Allemagne, c'est Olaf Scholz qui a été le premier à féliciter Emmanuel Macron pour lui signifier leur relation de confiance. Alors, en général, quand il y a le mot de confiance, ça veut dire qu'on est d'accord la plupart du temps, mais c'est pas sûr qu'on le soit tout le temps, tout le temps. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine, le chancelier allemand refuse de mettre en place un embargo sur l'énergie russe. Et au moment de notre élection, 50 eurodéputés lui avaient envoyé une lettre pour lui demander de se placer, je cite, « du bon côté de l'histoire ». Pour le magazine américain Foreign Policy, ça montre déjà des divisions potentielles au sein du couple franco-allemand. Donc la confiance, ça sera important. Et pour Simon Bates, l'éditorialiste de CBS basé en Angleterre, la réélection d'Emmanuel Macron et les désaccords avec Boris Johnson vont rester là et ne feront qu'accentuer les relations houleuses qui existent déjà entre les deux pays depuis 1000 ans à peu près. Il ironise en disant que pourtant, nos deux pays ont essayé de se réconcilier. La France en fournissant à l'Angleterre de très bons joueurs de foot et l'Angleterre en produisant du vin que les Français pourraient quand même boire, sans succès. Boris Johnson n'a donc rien envoyé de folichon. La France est l'un de nos alliés les plus importants. J'ai hâte de continuer à travailler ensemble. Et puis bon, même si c'est pas la folie, on a quand même des contents, des pressés, ceux qui y trouveront leur compte. Par exemple, Al-Sisi, le président égyptien, qui dit son impatience pour la poursuite des relations entre la France et l'Égypte. Et puis l'Arabie Saoudite, c'est pareil, on espère renforcer et développer des relations dans tous les domaines. Comprenez là qu'il y a de grandes chances qu'on leur vende quand même plus d'armes. En parcourant les médias étrangers, en fait, ce qu'on voit le plus, c'est qu'ils analysent d'abord le résultat de l'élection comme un vote contre l'extrême droite. C'est notamment ce que fait le Washington Post et aussi le New York Times. Il s'agit là pour eux d'une mauvaise nouvelle pour la démocratie en France. En gros, l'extrême droite est banalisée et populaire. Et pour CBS, ce qui le montre d'ailleurs, c'est que c'est Marine Le Pen qui a réussi à imposer le sujet incontournable pour le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, à savoir le pouvoir d'achat. Et quand on parle de défis pour ce deuxième mandat, c'est l'économie et l'Europe qui reviennent le plus. Le Süddeutsche Zeitung, par exemple, se pose la question de savoir dans quelle mesure ce deuxième mandat pourra aider à réduire la dette de la France, qui s'est quand même envolé. Le journal cite le fait que le président réélu sera sûrement dans l'obligation de gouverner avec une majorité d'extrême droite ou d'extrême gauche à l'Assemblée, bloquant toute tentative de réduction des dépenses publiques ou de cotisations plus longues pour les retraites. La victoire d'Emmanuel Macron n'apparaît donc pas comme un signe totalement positif pour la démocratie, et à commencer par cela. La majorité des articles que j'ai lus pour cette chronique, et que je cite, sont écrits par des hommes, et de manière assez caricaturale. Je le relève, mais bon, j'ai aussi trouvé l'article d'une femme dans le New York Times. Elle le signe dans la rubrique « Style », et il est titré « La victoire d'Emmanuel Macron est aussi la victoire de Vuitton ».